Bonsoir. Ouverture lundi dernier à Paris en France de la 21e édition mondiale de la conférence sur le climat COP21. L'objectif de ce forum est de réduire le degré de pollution à travers le monde. Première retombée de cette conférence, la France a décidé de débourser 2 milliards d'euros pour financer les projets d'énergie renouvelable en Afrique. Que peuvent attendre les pays africains en général et la RDC en particulier de cette conférence? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce mercredi 2 décembre 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Il est membre de la commission environnement et ressources naturelles à l'Assemblée nationale. Monsieur Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir Kelly Kouté, bonsoir les auditeurs de la radio Capi.
Jean-Michel Dumont, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Robert Mbwankoy, spécialiste en sciences géospatiales. Bonsoir, monsieur Mbwankoy.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
La conférence mondiale sur le climat COP21 a officiellement débuté lundi 30 novembre à Paris en France en présence de 150 chefs d'État et des gouvernements. Prévu jusqu'au 11 décembre prochain, ce forum devrait élaborer le premier accord engageant l'ensemble de la communauté internationale à réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle. Le 12 décembre doit être trouvé un accord à Paris, a déclaré le président français à l'ouverture de cette conférence. Pour François Hollande, cet accord doit être universel, différencié et contraignant. Nounou Ngoy nous en dit plus.
La conférence sur le climat qui se tient à Paris est l'une des plus grandes rencontres de haut niveau organisées dans le monde pour les changements climatiques. Tous les pays de la planète, membres de la Convention cadre des Nations Unies, s'engagent pour la première fois à réduire la part de carbone dans leurs économies à travers toutes leurs activités. L'accord qui sera signé à Paris entrera en vigueur en 2020. La tenue de la COP21 constitue donc un enjeu important pour le continent africain qui veut s'assurer qu'il y aura bien de l'argent. Les pays qui abritent les forêts vont négocier pour bénéficier des fonds verts à cause de leurs massifs forestiers qui apportent une solution au problème de changement climatique. On parle des 100 milliards de dollars américains qui vont être disponibilisés. Les pays en voie de développement estiment que les pays industrialisés polluent depuis longtemps la planète. La RDC fait partie de ces pays. À ses assises, la délégation congolaise est composée de 150 personnes. Elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères.
Merci Nounou Ngoy pour tous ces détails. Jean-Michel Dumont, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC. Comment d'abord vous avez accueilli, vous, l'organisation de cette conférence sur le climat à Paris?
Écoutez, c'est une étape extrêmement importante au cours de laquelle l'ensemble des pays du monde vont essayer de trouver une solution au problème de réchauffement de la planète. Aujourd'hui, donc, toute la plupart des pays ont soumis leurs contributions nationales dans lesquelles ils ont consigné leurs engagements. Et avec toutes ces contributions, on arrive à un réchauffement de 2,7 degrés. Alors, vous me direz, 2,7 degrés, c'est pas énorme, mais imaginez que vous vous couchez le soir, vous avez 37, le lendemain matin, vous avez 39,7, et vous n'êtes pas bien. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe pour le monde. Et le problème, c'est que la République démocratique du Congo fait partie des 10 pays les plus menacés au monde par le changement climatique. Alors, ce n'est pas très visible, mais on en parlait encore à l'instant. La disparition des forêts, par exemple, au Congo central, a entraîné une réduction des pluies considérable. Ici même, à Kinshasa, regardez le retard avec lequel la saison des pluies est arrivée. Et Prenons Lubangui. Lubangui était navigable 361 jours par an il y a un siècle. Il n'est plus navigable maintenant que 122 jours par an. Donc vous avez des phénomènes considérables d'érosion, des phénomènes d'inondation, des phénomènes de sécheresse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que les paysans ne peuvent plus planter correctement dans la mesure où les cycles des saisons sont perturbés. Et donc c'est là qu'il faut trouver des solutions très concrètes pour les gens et en premier pour ceux qui sont les plus menacés. Et donc la RDC, je le disais, c'est en fait le cinquième pays qui est parmi les plus concernés par le problème.
Mais qui sont responsables finalement de ce problème, monsieur l'ambassadeur?
Qui sont responsables? C'est l'humanité dans son ensemble qui est responsable. Alors, bien entendu, il y a ceux qui ont commencé leur développement industriel il y a un peu plus longtemps que les autres, et donc c'est la raison pour laquelle les pays africains, les pays du Sud, sont attachés à ce principe donc de la responsabilité partagée, donc commune à l'ensemble du monde, universelle, mais en même temps différenciée. Et donc c'est la raison pour laquelle l'Union européenne et les États membres reconnaissent tout à fait la validité de ce principe et donc sont attachés, comme l'a dit d'ailleurs le président français, par un accord qui soit diversifié, donc qui reconnaisse une responsabilité donc partagée, différenciée, et donc avec effectivement des mesures à la fois d'adaptation et d'atténuation et des financements venus des pays du Nord, comme cela est promis.
Alors, la semaine dernière, vous avez organisé, je parle de l'Union européenne, la deuxième journée diplomatique sur les climats. C'était dans quel but?
Le but, c'est justement de sensibiliser les populations, puisque il y a des risques très importants pour ce pays, pour ses habitants. Quand vous allez aujourd'hui, par exemple, au Bandundu, vous voyez, donc par exemple, à Maindombe, les forêts qui ont disparu en 2 ans. Et les conséquences sont immédiates, c'est-à-dire qu'il pleut moins. 70% des pluies sont liées à la présence de forêts. Ensuite, quand il pleut dans ces conditions-là et qu'il n'y a plus de forêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau qui ruisselle vient immédiatement dans les rivières. Elle n'est pas retenue. Et donc, ça veut dire des inondations. Et en revanche, comme l'eau n'est pas retenue, ça veut dire également des périodes de sécheresse qui sont plus prononcées. Et donc, pour les paysans, c'est catastrophique. Alors vous avez déjà, vous les voyez le long des rivières, des phénomènes d'érosion. Vous avez la terre qui descend, vous avez des phénomènes d'éboulement. Et donc c'est un risque considérable pour le pays, pour ses habitants.
Alors la semaine dernière même, vous avez aussi rencontré la presse. Et pendant votre échange avec la presse, vous avez estimé que la COP21 constitue une opportunité de développement pour les pays en développement qui conservent leurs forêts de manière durable. Comment cela?
Écoutez, parce qu'il est effectivement extrêmement important de préserver ce capital. La République démocratique du Congo aujourd'hui est un émetteur important de gaz de serre. C'est-à-dire qu'en quelques années, elle est passée du statut de stock de carbone à un statut d'émetteur net. Pourquoi? Pour une raison très simple, la déforestation. Aujourd'hui, c'est un des pays dans le monde où la déforestation progresse le plus rapidement, un rythme de 0,37% par an à l'heure actuelle. Ça fait environ 6000 km², donc c'est plus de la moitié de Kinshasa qui disparaît chaque année. Et donc ça produit des émissions de gaz à effet de serre extrêmement importantes. Alors, il y a des raisons, c'est évidemment le charbon de bois. Donc il faut trouver des solutions qui permettent aux gens soit de se procurer du charbon de bois dans des conditions qui sont respectueuses de l'environnement, et c'est la raison pour laquelle nous avons développé donc toute une série de projets agroforestiers que vous connaissez bien maintenant à Mampou ou à Kipushi ou à Gungu ou à Nsio, et donc sur des terres sablonneuses en plantant des acacias qui ont des cycles courts et qui peuvent être coupés sans se gêner puisque c'est des terres qui n'étaient pas boisées. Et il faut également trouver toute une série de solutions énergie renouvelable. Par exemple, dans le parc des Virunga, nous finançons donc un programme de construction de centrales hydroélectriques pour plus de 100 MW, c'est-à-dire 25 fois ce que la ville de Goma a aujourd'hui. Et pour reprendre l'exemple, avec une toute petite centrale à Mutwanga, vous créez des centaines d'emplois, vous créez une savonnerie avec 350 employés, une petite usine d'extraction de la papaïne, et vous alimentez 20 000 personnes.
Et comment vous expliquez, monsieur l'ambassadeur, cette forte mobilisation et médiatisation autour de la COP 21, alors qu'on sait qu'il y a eu d'autres forums sur les climats qui se sont déroulés, on n'a pas senti cette mobilisation?
Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'opinion a pris conscience qu'il y avait un vrai danger même pour la survie de l'humanité, parce que au-delà du problème du réchauffement climatique, avec toutes les conséquences que ça entraîne, c'est-à-dire vous avez une diminution des rendements agricoles, vous avez une perturbation des récoltes, vous avez des cycles extrêmes d'inondations et de sécheresses, mais au-delà de ça, vous avez plein d'autres problèmes qui viennent avec, et en particulier un problème qui est majeur, qui est celui de l'acidification des océans. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'acidification des océans? Ça veut dire tout simplement que un certain nombre d'animaux, les coquillages, les coraux, etc., ne peuvent plus fabriquer de calcaire.
Merci.
Et donc, c'est une menace même pour la survie de l'humanité. Donc, aujourd'hui, les gens sont conscients.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous donne la parole tout à l'heure. François Ntekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRT. Vous êtes membre de la Commission environnement et ressources naturelles à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez l'organisation de cette conférence sur le climat?
L'organisation de la COP21 est une grande opportunité pour la RDC et tous les pays africains. Parce que vous avez remarqué déjà à la première journée, les Africains ont parlé d'une même voix. Et ils ont également été soutenus largement par la Chine, qui a été très clair que les pays qui ont pollué le plus longtemps et le plus massivement doivent le plus supporter la responsabilité financière des effets climatiques. Et donc, aujourd'hui, la délégation congolaise, qui en partie est déjà à Paris, d'autres vont suivre demain avec le président de l'Assemblée nationale, que je vais accompagner demain soir pour les réunions parlementaires, va avec un discours. Le discours de la RDC, c'est que au-delà de ce que Jean-Michel Dumont vient de dire, qui est vrai, que la RDC déforeste de plus en plus, il reste quand même un faible émetteur comparé aux grands émetteurs mondiaux. Les massifs forestiers de la RDC ou la forêt équatoriale ou les bassins du fleuve Congo restent quand même un massif important au niveau mondial pour absorber les gaz à effet de serre émis par d'autres pays. Et par conséquent, la République du Congo a des exigences. La première exigence, c'est cette contribution financière qui a toujours été réclamée. Et aujourd'hui, pour que la RDC fasse une réduction de 17%, elle a exigé au moins 21 milliards de dollars à la communauté internationale. Bien sûr, cette réduction est prévue à l'horizon 2030. Ça veut dire qu'on va réduire progressivement jusqu'à 2030. Mais en contrepartie, donc, les niveaux de réduction proposés par la RDC est conditionnel. Sans que la communauté internationale n'apporte l'aide attendue à la RDC, nous continuerons à vous déforester. Parce que, encore une fois, comme Jean-Michel Dumont venait de le dire, les populations ne les font pas par plaisir. Les forêts sont un vivier. C'est là que vit une grande partie de la population. Ils ont besoin du charbon de bois pour pouvoir avoir l'énergie, mais ils ont aussi besoin des nutriments qui sont contenus dans les forêts. Et donc, aujourd'hui, demander aux populations congolaises de ne pas déforester sans pouvoir donner des mesures compensatoires serait un rêve qui ne pourra pas être réalisé. Et donc, aujourd'hui, les 21 milliards que nous demandons...
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution par rapport à cette déforestation, une autre solution pour aider ces populations
Des solutions existent, elles sont nombreuses. Mais la solution la plus durable, c'est effectivement les énergies renouvelables. Je félicite effectivement l'appui de l'Union européenne pour ce qui concerne les différents projets énergétiques dans les parcs Virunga. Vous savez que je suis un élu de Rutshuru et donc directement concerné par ces projets. Mais nous devons penser grand, continuer avec les grands Inga. Parce que les grands Inga est une solution énergétique non seulement pour l'Afrique, mais pour l'Europe et pour quelques pays d'Asie. Et donc, il faudrait qu'on se concentre par rapport à ces projets pour que les grands Inga puissent se réaliser et donner de l'électricité à toute l'Afrique, à l'Europe, à une partie de l'Asie. Mais malheureusement, et je suis vraiment en phase aujourd'hui avec Jean-Michel Dumont, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos discussions, avec lui, parce que les dangers, effectivement, de Inga, c'est la déforestation, mais aussi il y a d'autres dangers imminents. J'ai suivi le discours du président nigérien à la COP et les présidents camerounais, qui tous sont en train de clamer qu'il faille les renvoyer les eaux de Lubangui pour pouvoir régler le problème du lac Tchad. Sachez que ce serait criminel pour la RDC et pour l'humanité tout entière d'envoyer les eaux de Lubangui, qui est un affluent du fleuve Congo, parce que cela signifierait tout simplement détruire l'agriculture sur toute l'aire du fleuve Congo, en commençant par Lubangui, donc la province orientale, la province de l'Équateur, ou les anciennes provinces de l'Équateur, les Bandundu, les Bas-Congo. Ce serait tuer les projets Inga. Déjà, vous savez qu'il y a des périodes de baisse d'eau qui font que Inga n'est pas suffisamment approvisionné avec l'état actuel de la situation. Et donc, si nous pensons...
La RDC ne va pas céder.
Non, la RDC ne cédera pas. En tout cas, nous tenons à ce que la RDC ne cède pas, en dépit des menaces des pays de la CEMAC. Nous étions, il y a 2 semaines, en réunion avec les parlementaires de la CEMAC, qui nous faisaient planer les risques de guerre si on ne donne pas de l'eau. Ils nous ont clairement menacé que si on ne donne pas de l'eau pour apposer un lac, il y aura des guerres. Et donc, nous devons nous préparer à ces guerres, effectivement, s'ils doivent arriver. Mais nous pensons que la raison va prévaloir pour que de telles situations ne puissent pas arriver. Et donc, la RDC, comme tous les autres pays du monde, et Jean-Michel Dumont l'a dit, ont des efforts d'adaptation à faire pour les populations qui doivent savoir qu'avec les réchauffements climatiques, il faudrait aujourd'hui envisager en termes d'agriculture des semences améliorées qui résistent mieux à la carence des eaux. Il faudrait s'adapter aux problèmes des chaleurs. Il faut savoir qu'il y aura de plus en plus de chaleur là où il n'y en avait pas. J'étais au Nord Kivu il y a 3 semaines. On s'est rendu compte que dans des montagnes de Bouito, il commence à faire chaud. Pourtant, c'est des endroits où il fait généralement frais à partir des 17 heures. Et donc, il faudrait aujourd'hui que les populations sachent qu'il y a des mécanismes d'adaptation qui doivent être faits. Mais en même temps, nous devons aussi contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons exiger que toutes les entreprises industrielles qui viennent au Congo puissent avoir des technologies qui soient à faible consommation d'énergie et à faible émission.
Jusque-là, le gouvernement n'exige pas ça.
Si c'est
vous
exigé,
allez exiger après la COP 21.
La loi l'exige.
Mais
la mise en pratique de ces dispositions par les mécanismes gouvernementaux traînent à suivre ou en tout cas ne sont pas faits de manière adéquate. Et donc nous allons accentuer ces efforts en sensibilisant pour qu'on fasse comprendre aux entreprises minières, pétrolières qui viennent au Congo que contribuer à l'atténuation des émissions aux gaz à effet de serre contribue aussi à, non seulement à les renommer, mais aussi à produire des produits qui soient propres et qui soient Merci. Bien labellisés à travers le monde et donc prisés
Merci
par
Merci François Nzekouye, Jean-Robert Mboakoy, spécialiste en sciences géospatiales. L'organisation de cette conférence sur les climats était-elle opportune aujourd'hui?
Oh, bien sûr que c'est vraiment opportun parce que les gens ne mesurent pas vraiment la portée, l'importance des gaz à effet de serre. Il faut revenir pour dire que normalement, si on essaie d'intégrer la quantité d'énergie qui vient du soleil et qui arrive jusqu'ici, la température du système ici à l'équateur devait être de moins 5 degrés. Et les gaz à effet de serre font augmenter la température de 33 degrés Celsius, essentiellement la vapeur d'eau et le CO2. Et ici, dans le monde, personne, on essaie d'étudier des modèles, mais personne n'essaie vraiment modéliser ce qui va arriver en cas d'une augmentation des gaz à effet de serre. On essaie de voir dans les archives géologiques. On essaie de voir la période carbonifère. C'était une période extrêmement chaude et pluviale ici, chez nous. En République démocratique du Congo, pendant la période carbonifère, tout le pays était couvert d'un lac précambrien. Donc ça voudrait dire...
Alors c'est, ça voudrait dire... Jean-Robert Mbakoy, cette émission est aussi pédagogique pour les auditeurs. Donc on va essayer d'utiliser des termes quand même assez simples pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. Vous avez la parole.
Oui, alors il y avait... Donc le pays ici était couvert d'eau. Alors, si on continue à faire augmenter la concentration des gaz à effet de serre, essentiellement le CO2, parce que c'est en réalité c'est plus facile qu'on aille chercher les produits pétroliers, qu'on les brûle pour produire de l'énergie. Mais on sait que on peut faire la photolyse de l'eau, hein, et n'est pas polluée. On peut utiliser d'autres sources d'énergie non polluantes. Ici en RDC par exemple, il y a des cours d'eau partout, donc on peut produire l'hydroénergie un peu partout. Mais lorsqu'on regarde les coûts, on s'est dit non, on prend la solution la plus facile, c'est celle d'utiliser les combustibles fossiles. Et également, tout à l'heure, l'honorable François disait que le problème essentiellement, c'est la production d'énergie. Non, si on essaie de regarder en RDC, la plus importante source, la raison du déboisement en RDC, c'est l'agriculture surbrûlé. C'est à cause de ça. Et c'est surtout la production du manioc, hein, qui se fait essentiellement partout, qui fait qu'on puisse aller encore davantage, ouvrir des espaces. Et aujourd'hui, on doit apprendre à la population à pouvoir intensifier l'agriculture, c'est-à-dire produire plus sur des superficies suffisamment réduites. Et lorsqu'on va produire plus sur des superficies réduites, en utilisant des techniques de production convenables, en ce moment-là, on va réduire notre contribution sur la déforestation, sur, disons, les émissions de gaz à effet de serre, parce que nous contribuons essentiellement à partir de la déforestation. Et il faut dire aussi, contrairement à ce que François avait dit aussi, que les forêts, à un moment donné, atteignent ce qu'on appelle un climax, un état d'équilibre dans lequel la respiration est égale à la photosynthèse. Donc, la forêt, les arbres ne croissent plus. Ils ne croissent plus et l'ensemble des forêts qui sont vieilles ici ont pratiquement atteint le climax et ne séquestrent pas. Mais vous savez qu'en RDC, nous avons quand même...
Et quand ça atteint ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut, si vous les coupez, vous émettez. Donc, il ne faut pas couper ces forêts-là. Il faut les garder intactes pour qu'on ne soit pas un émetteur. Et c'est ce que l'ambassadeur avait dit tout à l'heure. On est passé d'une phase où on n'était pas émetteur à une phase où on est nettement émetteur, puisque on commence à couper davantage. Vous pouvez voir 0,3% du taux de déforestation vous paraît minime en termes absolus. Mais si vous essayez de voir en termes relatifs, ce sont des superficies énormes, parce que c'est la moitié de notre pays qui est couvert de forêts. Donc c'est 128 millions d'hectares. Et si vous prenez 3% de 128 millions d'hectares, c'est une contribution vraiment significative. Mais nous avons quand même l'autre moitié qui n'est pas couverte de forêts, dans laquelle on peut promouvoir l'aménagement durable, dans laquelle on peut faire de la reforestation. Vous avez vu le projet Mampou, qui est un projet de l'Union européenne, qui a été réalisé lorsque j'étais encore fonctionnaire au ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, on voit bien que la forêt est revenue. On peut prendre cet exemple-là pour essayer de faire une production d'énergie bois à partir du reboisement. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. C'est vraiment opportun. Malheureusement, on n'a pas une oreille attentive de la part d'un certain nombre de pays, essentiellement des grands émetteurs. Les États-Unis continuent à faire de l'obstruction. La Chine suit. L'Inde veut emboîter le pas. Demain, peut-être, si la RDC devient un pays émergent, la RDC va dire, bon, moi, je vais émettre à mon tour. Mais écoutez, nous n'avons pas une autre planète. On n'a pas un plan B, c'est ce qu'on dit.
Donc la planète est en danger?
Oui. Nous n'avons que cette planète. Nous devons la sauver tous ensemble.
Merci Jean-Robert Mbouakoy. Monsieur l'ambassadeur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi avant de réagir au propos de François Anzekoué.
Moi, c'est Serge Mapendano depuis Lubumbashi au Katanga. J'estime que la RDC devait plus se faire entendre à travers sa diplomatie à cette COP21 en exigeant un financement plus robuste aux États pollueurs pour financer les projets de développement socio-économique au pays en échange de la protection de sa forêt équatoriale qui est le deuxième poumon forestier mondial, comme le fait le Brésil avec son Amazonie. Parce qu'il sera toujours difficile de conserver ce patrimoine plus précieux de l'humanité tant que les populations riveraines bénéficieront moins socialement de ces dividendes.
Cet auditeur rejoint un peu les propos de M. Nzekoué.
Je dirais d'abord que l'intérêt de la République démocratique du Congo, c'est de protéger sa forêt pour elle-même et pour ses habitants, parce que ce seront les premières victimes. Comme je le disais, nous sommes tout à fait d'accord pour prévoir des mesures de financement, et il y a effectivement donc une série de fonds qui sont prévus pour financer à la fois ce qu'on appelle les mesures d'atténuation et les mesures d'adaptation. Mais ce n'est pas par quota. Il faut que les projets soient des projets qui soient effectivement efficaces. Donc il y a une question d'éligibilité, comme on dit en jargon, de ces projets. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne, pour favoriser la République démocratique du Congo, parce que bon, l'expérience montre qu'un certain nombre de pays, et là je rejoins tout à fait ce que vient de dire l'auditeur, sont beaucoup plus efficaces pour défendre leurs projets que la RDC, sont effectivement pas en mesure, comme l'Indonésie, le Brésil ou quelques autres, de présenter leurs projets. Donc l'idée, c'est d'aider avec un pourcentage de 10% des projets, avec un montant de 1 500 000 $, pour permettre au fonds, par exemple au fonds vert, de financer l'étude pour que ces projets soient éligibles.
Alors la France a décidé de débourser 2 milliards d'euros pour financer les projets d'énergie renouvelable en Afrique. Est-ce que l'Afrique devrait se satisfaire de ce don de la France, ce don fait par la France?
Bon, c'est toujours très important. Je dirais que l'approche pour ce qui concerne la République démocratique du Congo doit être, à notre sens, double. Il y a d'une part, bon, Inga, mais Inga ne sera pas la solution au problème énergétique des Congolais. Pour une raison très simple, c'est que les coûts de transport sont considérables. Et pour pouvoir transporter sur le projet Inga 3, vous avez des coûts de transport, et pourtant ça ne concerne que l'Afrique du Sud et que des lignes qui sont pour une grande part déjà établies, 4,5 milliards de dollars environ, c'est-à-dire plus du tiers du projet. Si on veut desservir l'Afrique du Nord ou l'Asie, on est sur des coûts qui sont tellement exorbitants que ça n'a plus aucun sens économique. Pour pouvoir transporter cette énergie, il faut du courant continu à 600 000 volts. Du courant continu à 600 000 volts, ça vous passe au-dessus de la tête et vous ne pouvez pas faire de branchement. Donc pour les autres communautés, il faut des solutions différentes. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais a défini une agence, qui est l'Agence nationale des services d'électrification rurale, qui est un très bon projet parce qu'il permet d'offrir un cadre à la fois réglementaire, mais futurement financier, à travers un fonds fiduciaire, et qui permettra à des petites collectivités de créer des projets d'hydroélectricité, de biomasse, d'énergie solaire. Je suis allé à plusieurs reprises dans la région des Kivu et vous pouvez voir que là-bas, il y a des tout petits projets qui sont entretenus de façon absolument magnifique par des collectivités, des toutes petites collectivités. Il y en a un d'ailleurs à Rutshuru que le député doit très bien connaître. Et là, vous vous apercevez que quand vous demandez à une communauté de gérer sa propre installation électrique, elle y veille, comme on dit, comme avec sur la prunelle de ses yeux, et il y a deux turbines qui sont là, elles ne tombent jamais en panne parce que tout le monde fait très très attention. Donc ces projets sont parfaitement rentables. L'exemple de Mutwanga où les gens sont prêts à payer 70 dollars pour avoir un compteur et ensuite des cartes comme pour le téléphone prépayé, ça montre que c'est rentable. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Il se trouve qu'en plus Inga a l'avantage d'être un projet qui est dans une zone relativement peu peuplé, avec des problèmes d'environnement qui existent, mais qui sont quand même mineurs par rapport à ceux qu'on trouve par exemple en Asie du Sud-Est, et en aval, on ne trouve qu'une grande ville et la mer est assez proche, donc on n'a pas de problème. Mais donc les deux sont en fait non pas contradictoires, mais au contraire complémentaires.
Alors, monsieur l'ambassadeur, je voudrais aussi avoir votre point de vue par rapport à cette affaire de Lubangui, de l'eau de Lubangui, qu'on demande à ce que cette eau-là puisse alimenter le lac Tchad. On a suivi l'honorable Ndékouyé. La RDC est catégorique par rapport à ça.
Écoutez, j'espère, moi je vais vous donner ce qui est leur, mon opinion personnelle, mais ce que je constate, c'est comme je disais tout à l'heure, Lubangui est navigable aujourd'hui 122 jours par an contre 361 jours. L'exemple qu'on a pu trouver, par exemple, dans les grandes dérivations de grands fleuves, a généralement été catastrophique. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, avec la mer d'Aral, avec le Sierre d'Aria et la Moudaria. Donc, personnellement, moi, je ne conseillerais pas aux Congolais de dilapider ce magnifique capital, parce que je crains qu'elle ait déjà l'évaporation, rien qu'en emmenant l'eau de Lubangui jusqu'au lac Tchad sera considérable. Et ensuite, si c'est pour développer des projets d'irrigation dans la région, c'est de l'eau perdue. Donc, très franchement, moi, je dis bien à titre strictement personnel, mais pleinement d'accord avec l'idée des Congolais qui trouvent que c'est un projet relativement dangereux.
Merci, monsieur l'ambassadeur. François Ndékouyé, on va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud Kivu.
Jean-Pierre Matumaini, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. La RDC, avec ses cours d'eau et ses forêts, surtout équatoriales, a beaucoup à exiger à la communauté internationale. Mais très souvent, elle vend à ces genres de rendez-vous sans agenda contraignant. Cela se traduit par la composition de ces délégations, le temps et contenu de ces discours. Car pendant que les nations qui jouent un rôle de second plan à cette matière se sont fait représenter au plus haut sommet de l'État avec un discours qui contraint les participants, la RDC, elle, a fait piètre figure en y allant en observatrice. Ceci se traduit par le fait que d'autres pays ont fait parler d'eux, mais pas la RDC. On ne peut vraiment pas attendre de grand-chose, car visiblement, nous n'avons pas pris connaissance de ce que nous représentons à cette matière pour nous faire représenter au plus haut sommet et valablement.
Réaction.
Oui, je crois que c'est un point de vue sentimental qui n'est pas, de mon point de vue, rationnel. Les discours des chefs d'État sont des discours d'orientation. Mais ce ne sont pas les chefs d'État qui négocient. Vous avez affirmé vous-même ici qu'il y a une forte délégation de 150 personnes. Et donc, les négociateurs sont souvent les ministres et même parfois des simples fonctionnaires qui sont généralement au fait des préoccupations et qui doivent négocier. Mais c'est vrai, je suis d'accord aussi avec lui que les lobbies au niveau des chefs d'État peut jouer d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas nécessairement à l'occasion de la conférence. Ça peut se faire avant, tout comme ça peut se faire après, de manière à ce que l'on puisse obtenir le soutien de tel ou de tel pays. Généralement, une conférence comme celle-là se présente au lendemain de la conférence précédente. Quand nous étions à Lima en 2014, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à préparer la COP21. La France elle-même, le pays organisateur, a commencé à préparer la COP depuis cette époque-là. Donc, il ne faudrait pas croire nécessairement que parce qu'il y a un chef de l'État qui est passé ou qui a fait un beau discours au niveau de l'ouverture, que nécessairement ces pays-là vont rentrer avec une canette plus importante. Ça dépend de quelle manière on négocie. Et donc, aussi, je voudrais quand même revenir sur les points de vue émis par Jean-Robert, que je partage. Dans une émission comme celle-ci, on ne peut pas toucher toutes les préoccupations. Il est clair que l'agriculture joue un rôle important dans les émissions sur les gaz à effet de serre. Mais il faut savoir aussi que l'agriculture entraîne aussi la déforestation. Quand on doit étendre les champs, on ne va pas les faire sans couper les arbres. Donc, les deux sont des choses qui sont de façon complémentaire, jouent sur les émissions des gaz à effet de serre. Aussi, je tiens effectivement à rappeler que les efforts ne doivent pas être attendus simplement des pays du Nord. Nous-mêmes, nous devons fournir des efforts, nous devons investir nous-mêmes dans des mécanismes d'adaptation, parce que nous ne pourrons pas dire que parce que la communauté internationale a pollué pendant longtemps et qu'elle ne fait rien, nous allons laisser nos populations mourir. Donc, il y a des efforts qui doivent être fournis au niveau interne par chaque pays, et la RDC a des efforts à fournir à son niveau. En même temps, bien évidemment, nous allons exiger de manière ferme que la communauté internationale, dans les textes,
ces efforts à fournir vont se faire après la conférence.
Non, ça se fait déjà. Que les négociateurs sont partis avant même l'ouverture officielle. Les textes de travail dont nous disposons ici a été lu et commenté mot à mot pour que nous sachions
qu'est-ce que nos négociateurs doivent dire. Il y a même à la commission environnement, nous avons reçu le ministre de l'environnement pour lui donner des indications claires sur ce que le peuple congolais attend.
Donc, justement, la RDC attend quoi de ce sommet?
La RDC, comme je viens de vous dire, a fait une contribution nationale prévue pour déterminer le niveau national à titre de la convention. Le niveau que nous attendons atteindre à nous, c'est une réduction de 17% à l'horizon 2030. Et les attentes sont pour le moment raisonnables. Quand on dit qu'on attend 21 milliards, on ne croit pas qu'on va les avoir nécessairement. La communauté internationale avait promis à Copenhague un base fund de 100 milliards de dollars pour les projets RED, donc réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Mais à Lima, nous sommes revenus et on nous a dit qu'il n'y avait que 20 milliards. Et les 20 milliards en question n'ont jamais été redistribués entre les pays. Donc il ne faudrait pas non plus croire que parce qu'on demande trop, qu'on recevra nécessairement ce qu'on demande. Il faut arriver à présenter des projets, comme a dit Jean-Michel Dumas, qui soient convaincants, qui contribuent effectivement à la réduction des émissions, de manière à ce que les personnes qui vont financer sachent qu'ils ont un intérêt aussi à ce que la RDC les fasse, parce que l'effet va être global.
Merci François Anzekouye. Jean-Robert Mbouakoy, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Kiri Djomba, depuis Goma, dans la province du Nord Kivu. À mon avis, tant que la RDC ne saura pas qu'elle occupe une place très importante dans la gestion de l'environnement mondial, de par sa position géographique, il sera difficile de bénéficier quoi que ce soit dans une telle conférence. C'est à nous de nous rendre compte que nous occupons une place de choix et nous imposer comme tel sur l'échiquier mondial. Car tout ce qu'on fera pour la RDC sans la RDC, on le fera contre la RDC. C'est-à-dire que la RDC doit se battre pour qu'elle soit au centre de l'environnement mondial. Loin de là, les conclusions de la COP21, comme d'autres conférences précédentes, n'auront aucun impact sur la RDC en tant que deuxième poumon de la forêt mondiale.
Réaction.
Oui, l'auditeur a effectivement raison. C'est nous-mêmes, la RDC, c'est nous-mêmes qui devons prendre conscience de ce que nous représentons. Nous avons le deuxième poumon mondial des forêts tropicales et ces forêts-là peuvent, si elles sont mal gérées, contribuer à une augmentation sensible du taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, malheureusement, je crois que l'opinion et nous tous, techniciens, moi je participe pas à ces conférences-là hein, depuis le Brésil, depuis le Mexique, et on voit que souvent, très souvent, même si l'honorable François a dit que nous avons des négociateurs qui sont là, il y a beaucoup de nos négociateurs qui vont pour un certain nombre de raisons qu'on ne trouve pas dans les conférences et qui ne sont pas là. Mais évidemment, nous avons des techniciens chevronnés également qui sont là. Je sais que le secrétaire général à l'environnement et toute son équipe sont là chaque année. Et il y en a qui sont quand même suffisamment intransigeants pour que l'on puisse pour que la RDC puisse peser vraiment dans la balance. Mais je crois que nous ne faisons pas assez. La voix de la RDC doit équivaloir à celle du Brésil ou de l'Indonésie. Nous devons vraiment
Quand vous dites que la RDC ne fait pas assez, ça veut dire quoi? Qu'elle ne vient pas avec de projets convaincants, qu'elle ne vient pas avec un discours contraignant?
Il faudrait que la RDC puisse avoir un discours suffisamment contraignant. Puisque la RDC donne sa contribution. Nous avons cette forêt-là, qui est un réservoir important de CO2 et qui peut faire bouger l'atmosphère si jamais elle n'est pas conservée. Cette forêt-là a été conservée par nos ancêtres et puis par nous-mêmes pendant plusieurs années, plusieurs générations, et elle contribue au bienfait de l'humanité et l'humanité doit considérer que ici il ne s'agit pas d'un cadeau. Parce que vous êtes en train de dire que oui, la France donne. Nous ne devons plus être dans cette optique-là de don à recevoir. Nous avons quelque chose en échange. Et nous devons arriver
à un point tel qu'il y a une comptabilisation de notre contribution et en échange de cette contribution-là qui n'est pas financière, on a des retombées financières. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut intensifier l'agriculture. Nous avons suffisamment d'espaces qui sont en forêt secondaire ou en jachère dans la RDC qui peuvent nous permettre de produire. Mais la RDC est un importateur net des produits agricoles. Nous importons pour 2 milliards de dollars de produits agricoles. Le poisson que nous pouvons produire ici, nous l'importons chez les voisins du Namibie ou même en Corée du Sud. Nous importons pratiquement tout. Et nous n'avons pas, malheureusement, nous n'avons pas, même ici, même sur le plan de la production agricole, on n'a pas le soutien de notre gouvernement. J'ai discuté avec un collègue qui me disait que vous commencez un projet agricole et déjà il n'est pas rentable. Parce que moi je produis des oignons, lorsque je produis des oignons, je les amène sur le marché, je rencontre les oignons qui sont produits en Belgique, qui sont subventionnés et les miens ne peuvent pas être achetés parce qu'ils coûtent plus cher. Et la saison prochaine, je ne produirai pas. Donc, il faudra que la RDC puisse vraiment peser au cours des négociations et montrer que effectivement, nous sommes le deuxième poumon de la planète.
Merci, Jean-Robert Mbouakoy. Monsieur l'ambassadeur, l'accord qui sera signé à Paris doit-il être contraignant, surtout pour les pays pollueurs, parce qu'il y a certains pays déjà qui pensent que cet accord ne devrait pas être contraignant.
Écoutez, ce qui importe, c'est le fait qu'il y ait des engagements contraignants qui soient pris, des engagements qui soient vérifiables, et donc il faut des systèmes de comparaison particuliers pour vérifier que les engagements qui ont été pris dans ce qu'on appelle les contributions nationales, les INDC, soient effectivement remplis, et puis des engagements qui soient révisables, mettons tous les 5 ans, pour qu'on puisse faire le point et prendre des engagements supplémentaires. C'est ça qui est important. Ceci étant, cette conférence est un premier pas.
Ça sera aussi votre conclusion ?
Oui, c'est un premier pas. Elle ne sera pas la solution à tous les problèmes de l'humanité en une journée, hein, c'est clair. Mais ce que peut espérer, c'est qu'il y aura suffisamment de progrès qui seront faits pour remettre quand même l'humanité sur la bonne voie, parce que la menace qui pèse quand même sur l'avenir quand même de la population humaine est réelle. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a un vrai danger pour même la survie de l'espèce humaine. On est aujourd'hui dans la sixième disparition de la vie sur Terre, la sixième phase d'extinction, et c'est probablement celle qui aujourd'hui est la plus rapide que la Terre ait jamais connue.
Merci, monsieur l'ambassadeur François Ndékouyé. Votre conclusion?
Ma conclusion, effectivement, est que le texte qui va être adopté doit contenir des termes contraignants. Parce que le texte de travail que j'ai devant moi, il vous donne des termes. Je prends simplement l'article 6 sur les finances, le point 5. On vous dit la mobilisation des finances climatiques. On met en parenthèse doit, devrait, autre, s'élever au-delà des 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Donc on ne choisit même pas un terme fixe à ce stade. Donc nous souhaiterons que dans ce texte, tout s'exprime en termes de doit. Et que ces devoirs-là doit, comme l'a dit Jean-Robert Mbouakoy, être considéré non pas comme des dons, mais comme des compensations. Parce que quand les pays occidentaux émettent des gaz à effet de serre, ils font de l'argent. Et cet argent permet à ce qu'ils se développent pendant que les autres sont en train de croupir dans la misère. Donc nous tenons absolument à ce que les engagements soient pris comme des compensations et non pas comme des dons, et ces compensations doivent être contraignantes et chiffrées de manière à ce que
merci,
les pays du Sud profitent
merci,
des ressources
qu'ils ont. C'est couillé Jean-Rombert Mbouakoy.
Oui, je crois que j'ai le souhait que le tout se passe convenablement. Je ne pense pas que les termes contraignants vont y être. Nous avons déjà, les États-Unis ont déjà annoncé la couleur. Il n'y aura pas d'engagement contraignant pour les États-Unis. Alors, vous comprenez que c'est très très difficile, mais ce que moi je voudrais dire, c'est que nous n'avons pas de plan B. Nous avons une seule planète et nous devons agir maintenant.
Merci, M. Mbouakoy. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.